Chapitre 8. Van Bergen vint le jeudi soir, comme d'habitude. Karéline l'attendait à Vert. Car elle était restée chez Maria, n'osait plus retourner seule à Winwis. On n'avait pas revu Gomard. On ne savait s'il était retourné vers Middelbourg, Flessing et le continent, ou s'il se cachait dans le pays. Personne, en tout cas, n'en avait eu de nouvelles. Et l'on était certain aussi qu'il n'était pas revenu à Vert prendre le bac pour les îles de Beveland ou de Schouwen. À peine arrivé, Van Bergen s'occupa lui-même de l'enquête avec Joseph Van Outland et son fils Joris. On bâtit toutes les fermes d'alentour, on questionna les paysans. Nul n'avait abrité dans sa grange de cheminots dont le signalement correspondit à celui de Gomard. D'hôtel, il n'y en a pas à Vert. Une auberge seulement, ou quelques petits cafés, dont les patrons connaissaient aussi bien les Van Outland que Van Bergen, et déclaraient n'avoir rien vu. Un homme, en cette saison, par un froid intense, dans un pays détrempé par le dégel, qui était venu brusquement, ne peut vivre comme un loup, tout seul, sans gîte et sans manger. Il devenait certain que Gomard Joens, à pied ou en autobus, était retourné à Middelbourg. « Mais il peut revenir, » disait Caroline. « Ce n'est pas loin, Middelbourg. »« Pourquoi veux-tu qu'il revienne ?» objectait Van Bergen. « S'il voulait revenir, il ne serait pas parti. »« Non, rassure-toi, il est maintenant de l'autre côté de l'Escaut, à Breskens ou Ternesen, ou beaucoup plus loin. D'ailleurs, pour en être bien sûr, en retournant samedi, je me renseignerai au bac. » Un gaillard comme Gomard ne passe pas inaperçu. Les marins, un contrôleur ou l'autre, l'auront bien remarqué. « C'est égal, disait Caroline, je ne suis pas tranquille. Maintenant qu'il sait où nous sommes, il reviendra, Domitien, tu verras. » « Mais je n'ai pas l'intention de te laisser ici, petite. À peine entrée à Anvers, je te chercherai quelque chose dans la banlieue, à peu de distance de la maison. Tu prendras garde, voilà tout, de ne pas trop te montrer. » « Mais je ne pourrai jamais attendre, Domitien. Je vais mourir de peur si je dois rester ici seule à Winwis. Non, non, je pars avec toi. Je trouverai bien une chambre où me cacher à Anvers. » Il n'est pas question de rester seule à Winwis. Je puis m'arranger avec les Van Outland pour que Joris te garde la nuit. Un bon chien, un revolver. Tu n'aurais pas peur, je suppose. » Et même, tiens, je demanderai à Maria que, sitôt mon départ, tu t'en ailles aussi chez elle. Tu vivras là quelques jours en m'attendant. Tu seras tranquille, ainsi je pense. J'aimerais mieux partir avec toi. Voyons, voyons, sois raisonnable. 2 jours, 3 jours, le temps que je te trouve un gîte, ce n'est pas une affaire. Il faut être raisonnable, Caroline. Mais elle restait nerveuse. Le jour qu'il dut partir, elle pleura toute la matinée. Il finit par lui promettre de revenir le surlendemain et de l'emmener sur le Zimmers à Anvers, eût-il trouvé ou non l'installation qu'il voulait. Il s'en alla avant que le soir tombât. Maria et Joseph étaient venus jusqu'à Winwis. Lui partit, Caroline s'en irait avec eux à Vert pour y demeurer jusqu'à son retour. Elle voulut faire avec lui un bout de chemin. Elle l'accompagna près d'un kilomètre sur la longue digue basse à l'ouest de Winwis. Il avait laissé le Zimmer sur une grève au nom de Vrouwenwolder. « Tu ne seras pas longtemps parti, n'est-ce pas ?» demandait Caroline. « Mais non, petite, 2 jours, 3 jours au plus. Pourquoi n'as-tu pas voulu que nous rentrions avec toi ? J'aurais été si contente !» Tu sais bien que ce n'était pas raisonnable. Notre petite domicienne dans une chambre d'hôtel, voyons. Tu es donc si inquiète? Oui, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il va m'arriver un grand malheur, quelque chose d'épouvantable. Van Bergen regardait Caroline. Elle avait les yeux pleins de larmes. Il l'embrassa. Quel gros chagrin! Tu me ferais hésiter! Il hésitait en effet à la voir si faible, si craintive. Mais il se reprit. Non, vraiment, ce serait déraisonnable. Allons, Caroline, encore un peu de courage. Je t'en ai tant demandé déjà. Tu dois en avoir l'habitude. Il ne m'en a jamais tant fallu que pour te laisser partir ce soir. J'ai peur pour toi. Peur, dit-il en riant. Allons, allons, chasse toutes ces chimères. Tu me reverras mardi soir. Et je t'enlève sur mon immeuble, mon brave vieux goéland. Trois jours. Comme Colomb, je te demande trois jours. Veille bien sur la petite. Et maintenant, un baiser, et vite à Winwis, ma chérie. Voici le soir. » Elle se jeta dans ses bras encore, avec passion, et il fut ému sans savoir pourquoi. Il mit lui-même une espèce de ferveur dans le baiser qu'il lui rendit. De loin, une fois encore, il se retourna. Elle s'en allait sur la digue, silhouette mince, et se retournait aussi pour agiter son voile blanc en adieu. De la main, il répondit au geste avec une involontaire mélancolie. Il allait d'un bon pas. La digue s'éloignait de la côte, pénétrait vers les terres. Il la quitta. Il suivit une espèce de lande sablonneuse où restaient encore, malgré le dégel, des plaques de neige glacée. La ligne rousse d'un bois s'apercevait dans la distance. Il atteignit. C'était le bois de chêne tordu, bas et rabougri, qu'il aimait hanter, jadis, avec Caroline. Il suivit une sente dans le bois, à travers les dunes, un chemin étroit, encaissé et perdu. Le soir venait et l'emplissait d'ombre. Des herbes rudes, de chaque côté, le hérissaient, des arbres nus et sinistres, tendant des moignons fracassés. Deux longs sillons parallèles et boueux, les traces qu'avaient laissées les chars des paysans, ramenant de la mer les moissons de Goémon et de Varec, s'enfonçaient vers les lointains. Et c'était tout Ruisdael dans sa grandeur sauvage. Van Bergen allait et songeait. Une tristesse confuse l'assiégeait, comme un pressentiment. Il semblait que l'inquiétude irraisonnée de Caroline eût laissé quelque chose en lui. Le chemin montait vers la dune en atteignait le faîte pour redescendre l'autre versant. Mais de là-haut, un instant arrêté, Van Bergen embrassa d'un coup d'œil unique la mer et une vaste étendue de côtes basses, d'un jaune pâle, par-delà le vallonnement des dunes. Le Zimeuve reposait, coque noire et ronde, plantée vers l'avant d'un mât de couleur brune, à pommes blanches, et frémissant déjà sous la lente poussée de la marée. La mer montait, illimitée, largement plaquée d'un rouge sanglant, sous le soleil couchant. Un vent d'infini, une rude bise marine, au chant monotone et désespéré, secouée parmi les sables blanchâtres, de dures et maigres touffes d'oyates desséchées. On ne pouvait avoir cette solitude, cette grève désolée, si proche des hommes et qui évoquait pourtant des âges anciens, s'empêcher de songer à la tragique incertitude de l'aventure humaine. Van Bergen s'était assis sur une souche et rêvait. Il envisageait la mort et s'inquiétait de ceux qu'il laissait derrière. Caroline, l'enfant, quel sort les attendait, lui disparut. L'isolement, la misère, la honte, quel fardeau de responsabilité sur ses épaules. Il se sentit plus vulnérable en ces êtres qu'il aimait. Puis la pensée soudaine de Wilfrida lui revint, consolante et lumineuse comme une espérance. Wilfrida. Il redit le nom tout bas pour lui-même. De le prononcer évoquait plus intensément le doux visage douloureux, la chère créature aimante qu'il avait torturée et qui était restée quand même toute charité et tout amour. Wilfrida, en elle il pouvait avoir confiance. Il la vit telle qu'elle était, sensible à l'excès, d'une noblesse, d'une grandeur infinie, capable du plus surhumain sacrifice. Et mentalement, il lui confia le sort des innocentes. Il s'en remit à elle dans un élan de confiance aveugle, absolue. Elle ne saurait jamais à quel point il avait aimé tout ce qu'il avait découvert en elle d'abnégation simple et grande et inconsciente. Mais il lui dédia, à cette heure, de toutes les forces de son être, un muet et fervent acte d'amour et de foi. Il s'essuya les yeux, se leva, se remit en route. Le chemin redescendait la dune vers la mer et le Zimeuve. Van Bergen allait tête basse. Il ne vit que tout près une forme noire, adossée à un chêne, et qui attendait. Elle se détacha, barra la route brusquement. C'était Gomard. Il ne dit pas un mot. Il tendit vers Van Bergen son poing fermé sur un court objet massif en acier noir. Il hésita une seconde, juste le temps de laisser comprendre à Van Bergen qu'il allait mourir. Le claquement du coup de feu fit s'enfuir des dunes un vol de mouettes et de goélands. Van Bergen, portant les mains à sa poitrine, avança encore d'un pas en titubant. Il tomba sur les genoux, d'abord, puis s'abattit, la face en avant.